troisième protagoniste du temps de l'Avent qu'on oublie, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Certes, il est caché, il est dans le sein de Notre-Dame, mais comme Notre-Dame, dès sa conception, il jouit de toutes ses facultés en tant qu'homme, et il est parfaitement conscient. Donc il ne reste pas 9 mois à ne rien faire, comme nous-mêmes, lorsque nous étions dans le sein de notre mère, nous n'avions pas de conscience. Lui, il est conscient, et son âme exerce une activité intense. En quoi consiste la vie intime de Jésus en Marie pendant ces 9 mois cachés? Revenons d'abord à la conception de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire au jour de l'Annonciation. Lorsque la Sainte Vierge consent, lorsqu'elle dit « Fiat mihi secundum verbum tuum », alors Dieu forme en elle, le Saint-Esprit forme en elle une âme humaine, un corps humain, qui s'unissent et qui sont déjà un petit être humain. Quelles sont les dispositions de Jésus au moment de sa formation, de son incarnation en Marie? Eh bien, en arrivant à l'existence, notre Seigneur Jésus-Christ, dans son humanité, découvre aussitôt, dans la vision béatifique de Dieu, toutes les richesses divines de son âme. Notre Seigneur est Dieu, il est Dieu et homme. Son humanité vient de s'unir à sa divinité dans le sein de Notre-Dame. Cette humanité qui vient à l'existence, notre Seigneur étant pleinement homme, a comme nous un corps et une âme, une volonté humaine ainsi qu'une volonté divine, une intelligence humaine et une intelligence divine. Eh bien, notre Seigneur découvre ce qu'il est, c'est-à-dire le Verbe incarné. Il découvre toutes les richesses divines que porte son être, les admirables perfections de sa nature humaine. Notre Seigneur connaissait l'union hypostatique, c'est-à-dire que son humanité était unie à une personne divine. Il n'y a pas de personne humaine en notre Seigneur Jésus-Christ, il n'est que Dieu. Cette humanité est animée, portée non pas par une personnalité humaine, mais par la seule personnalité divine du Verbe. Et pour cette humanité, notre Seigneur Jésus-Christ, c'est une béatitude. Nous-mêmes, quand nous serons au ciel, que nous verrons Dieu, ce sera la béatitude, parce que nous serons parfaitement unis à lui. Mais lui était uni bien plus intimement, puisque c'est la personne même du Verbe qui assumait cette humanité. Alors c'est le bonheur comme un océan de lumière et de ravissement dans son âme. Un auteur commente: « Au commencement du monde, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut, et les anges furent dans la jubilation. Mais combien plus grande la lumière que Dieu créa et dont il inonda l'âme du Sauveur quand il tira cette âme du néant pour l'unir immédiatement à son Verbe éternel. Quelle allégresse, quelle joie divine pour l'âme du Sauveur de se voir unie si subitement à celui qui est lumière de lumière, Dieu de Dieu. Dans quels océans de grâce, dans quel feu d'amour se trouva tout d'un coup plongée l'âme si heureuse que Dieu s'était créée pour être son âme. Quelle connaissance sublime et profonde elle eut de Dieu, de ses grandeurs, de ses volontés, de son amour. Quel délice, quel ravissement elle puisa dans la vision béatifique dont elle commença à jouir dès l'instant solennel où elle commença à exister. » Etc. Donc voilà le grand événement qui se passe dans le sein de Marie. Dieu devient homme et cet homme voit ce qu'il est, voit cette personnalité divine qui le soutient. Et pendant ces 9 mois, notre Seigneur est dans le ravissement. Non seulement pendant ces 9 mois, pendant toute sa vie, mais ici c'est le début. En même temps, dans cette lumière de la vision béatifique, l'âme humaine de notre Seigneur découvre sa mission. Elle découvre le plan de Dieu que Dieu veut lui faire sauver le monde, qu'il est appelé à offrir sa vie pour l'humanité sur le calvaire, qu'il est appelé à unir tout ce que le péché a séparé, qu'il est appelé à devenir la tête du genre humain et à faire découler de lui toute la vie divine pour le genre humain. Notre Seigneur, voyant donc ce qu'il est, voyant la mission, comment va-t-il réagir? Quelle est son attitude? Quel est le mouvement de son âme? Eh bien, la Sainte Écriture a un peu levé le voile qui nous cache ce mystère. Dans le psaume, dans un des psaumes qui est repris par Saint Paul dans l'Épître aux Hébreux, nous lisons « Vous n'avez voulu ni sacrifice ni oblation, mais vous m'avez formé un corps. Vous n'avez agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, me voici. Je viens, ô Dieu, pour faire votre volonté. » C'est le psaume 39. Vous voyez exactement la même attitude que l'attitude de la Sainte Vierge au moment de l'Annonciation. Et du reste, ça se passe pratiquement au même moment. Notre Seigneur reçoit cette mission de son Père et aussitôt il dit « Me voici, je viens faire votre volonté. » C'est le premier geste de notre Seigneur, il s'offre en oblation complète à son Père. N'oublions pas qu'il voit la passion grâce à la science divine qu'il a et à la science infuse qu'il a dans son âme humaine. Il adhère à l'emprise du Verbe éternel sur son humanité et au dessein de Dieu qu'il a créé pour le sacrifice. Et cette oblation demeurera toujours sa disposition foncière. À tout instant, ce sera son aspiration d'offrir sa vie pour sauver le monde. Je disais tout à l'heure que notre Seigneur n'avait pas de personnalité humaine. Ce qui peut-être à première vue nous semble une pauvreté, un déficit, quelque chose qui manque, nous sommes heureux d'avoir une personnalité. Eh bien au contraire, comme il est assumé par une personnalité divine, c'est un enrichissement. Cette union n'est pas un asservissement, c'est une glorification. En notre Seigneur, ce ne sont pas seulement les pensées de Dieu qui ont été substituées aux idées humaines, ce n'est pas seulement le vouloir divin qui se subordonne le vouloir humain, mais à la racine de son intelligence et de sa volonté, à la racine de son âme, la personne divine du Verbe assume l'humanité de Jésus. Et c'est pourquoi, quand notre Seigneur parlait, il disait « Moi qui vous parle, je suis la voie, la vérité et la vie. Le Père et moi, nous sommes un. » Ainsi, par cette union hypostatique, jamais homme ne fut et jamais homme ne sera autant consacré à Dieu. Et par cette union hypostatique, il est le grand prêtre. Alors vous voyez que dans la Sainte Écriture parle de l'onction de notre Seigneur, un prêtre est oint, il reçoit une onction de l'Huile Sainte hein, dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, dans le sacrement de l'ordination sacerdotale, on reçoit aussi cette onction. Eh bien, cette onction ici, on l'a fait consister, les auteurs la font consister à cette union de la nature divine à la nature humaine par le Verbe. Et ça se passe dans le sein de la Sainte Vierge. C'est dans le sein de la Sainte Vierge que Jésus devient prêtre. Il peut dire sans cesse, je vis à cause du Père. Toute la personne humaine de Jésus est emportée dans la louange du Verbe. Le Verbe éternel ne cesse de louer son Père, de glorifier son Père. Eh bien, le Fils de Dieu, fait homme, l'humanité de Jésus, va aussi sans cesse louer son Père. Il est la consécration parfaite. Maintenant, troisième point, notre Seigneur, s'il vient sur la terre, c'est pour se donner non seulement à son Père, comme il le fait au moment de l'incarnation, mais également aux hommes. Jésus vient se donner aux hommes. Et il choisit, remarquez-le bien, dans son plan, enfin Dieu choisit toutes les circonstances de l'incarnation. Rien n'est au hasard, il n'y a pas d'échec tout est choisi et tout déjoue la prudence et la sagesse humaine. Saint Jean Chrysostome dit, sans doute, s'il l'eût voulu, il pouvait venir en ébranlant les cieux, en faisant trembler la terre, en lançant la foudre. Il a rejeté tout cet appareil, car il venait non pour perdre, mais pour sauver l'homme, et dès sa naissance, fouler aux pieds l'orgueil. Il ne lui suffit donc pas de se faire homme, il se fait homme pauvre. Il choisit une mère pauvre, qui n'a point même de berceau pour y déposer son enfant nouveau-né. Il choisit de venir à nous, de se donner à nous comme un minuscule enfant. Il n'y a rien de plus faible sur la terre qu'un embryon et ensuite un fœtus et un petit enfant dans le sein de sa mère. Et c'est ce que Dieu choisit pour se donner à l'homme. Dans une dépendance complète des hommes. Il choisit une famille pauvre, une femme pauvre et inconnue. Parce que Jésus veut attirer les hommes. Il veut attirer tous les hommes, même les plus craintifs, même les plus éloignés. Il veut se faire accessible à tous les hommes. Il se donne vraiment à nous que personne ne puisse jamais dire « ce n'était pas pour moi ». Que personne ne puisse jamais dire « Jésus n'est pas venu pour moi, ne s'est pas donné à moi ». Et Don Marmion commence « Quelle joie de voir Dieu se manifestant à nous, non dans l'éclat éblouissant de sa toute-puissance, ni dans la gloire indicible de sa souveraineté, mais sous le voile d'une humanité humble, pauvre, faible, que nous pourrons voir et toucher. » Notre Seigneur nous ouvre son cœur pour mendier notre attention, pour mendier un amour réciproque face à l'amour éternel de Dieu. Dieu avait épuisé toutes les possibilités. Il avait créé le monde, il avait créé Adam avec la justice originelle, il avait donné les bénédictions à son peuple pendant des centaines d'années et les siens ne l'ont pas reçu. Alors, il fait le plus. Il vient dans cet état misérable, minuscule, pour essayer de toucher le cœur de l'homme. Enfin, alors notre Seigneur vit cela pendant ces 9 mois. Pensons à cela pendant le temps de l'Avent. Et enfin, notre Seigneur trouve son bonheur, ce sera pratiquement le seul moment de sa vie, où il trouvera un bonheur parfait parce qu'il est dans le sein de Marie. Notre Seigneur trouve son bonheur à vivre en elle. Marie est le tabernacle, l'ostensoire de Dieu, l'arche de la nouvelle alliance. Elle correspond parfaitement au plan de Dieu, donc elle, non seulement elle accepte, mais elle donne tout son amour à cet enfant, son enfant qui est en même temps son Dieu. Et cela comble le cœur de notre Seigneur, parce que le cœur de Marie est tout pur, sans aucune tache, sans aucune réserve, et ça suffit. Le cœur de Marie suffit amplement à combler le cœur de notre Seigneur, malgré les milliards de péchés des hommes et les milliards d'abominations qu'ont pu faire les hommes et que feront les hommes dans tout le cours de l'histoire. Il reçoit plus de joie de Notre-Dame que de déplaisir de tous les péchés des hommes. Donc c'est spécialement pendant ces 9 mois qu'il va éprouver cela. Saint Jean Chrysostome dit encore, « Il en est qui regarde comme souverainement étrange, inconvenant même, que Dieu fasse son habitation d'un corps mortel. » C'est vrai que ça pourrait sembler tout de même pas très digne. Mais est-ce que le soleil, qui est un corps sensible et qui pénètre tout de ses rayons, voit pour cela s'obscurcir son éclat? À plus forte raison, le soleil de justice, en prenant un corps très pur dans le sein d'une vierge, ne perd rien de sa pureté. Bien loin de là, il ajoute à la pureté, à la sainteté de sa mère. Donc notre Seigneur trouve son paradis sur terre, dans le sein de la Vierge. Il y trouve la pureté, il y trouve la charité sans réserve, il y trouve le don total de l'homme à lui-même. Saint Louis-Marie de Montfort écrit « Dieu le Fils est descendu dans son sein virginal comme le nouvel Adam dans son paradis terrestre pour y prendre ses complaisances, pour y opérer en cachette des merveilles de grâce. ce Dieu homme, ce Dieu fait homme, a trouvé sa liberté à se voir emprisonné dans son sein. Il a fait éclater sa force à se laisser porter par cette petite fille. Il a trouvé sa gloire et celle de son Père à cacher ses splendeurs à toute créature d'ici-bas pour ne les révéler qu'à Marie. Il a glorifié son indépendance et sa majesté à dépendre de cette aimable Vierge dans sa conception, en sa naissance, en sa présentation au Temple, en sa vie cachée de 30 ans. C'est elle qu'il a allaitée, nourrie, entretenue, élevée et sacrifiée pour nous. Ô admirable et incompréhensible dépendance d'un Dieu que le Saint-Esprit n'a pu passer sous silence dans l'Évangile. Alors vous le voyez, comme nous dirons tout à l'heure, c'est vraiment une invitation pour nous à faire comme lui, à vivre en Marie, à entrer dans la dépendance de Marie. Il nous a montré l'exemple, et spécialement pendant le temps de l'Avent. Eh bien, quelles leçons tirer de cette vie de Jésus en Marie pour nous cette année ? La première, nous rappeler notre consécration à Dieu. Jésus homme est assumé entièrement par le Verbe de Dieu. Eh bien nous, par le baptême, nous sommes non pas physiquement, non pas au plan naturel, mais au plan mystique, nous sommes aussi assumés par Jésus-Christ. Certes, nous gardons notre personnalité humaine, mais nous entrons dans le corps mystique, c'est-à-dire que nous formons avec Jésus-Christ et avec tous les autres membres du corps mystique une seule personne, non pas physique, mais une personne mystique, c'est-à-dire une personne selon la grâce. Comme dit saint Paul, vous êtes tous un au neutre, en latin ou en grec, c'est-à-dire une seule réalité en Jésus-Christ. Nous sommes consacrés à lui et c'est beaucoup plus profond que nous ne l'imaginons. Le baptême est aussi la confirmation. Hein. Par la confirmation, le baptême est spécialement une consécration à Dieu, une emprise du Saint-Esprit sur nous, la confirmation, un engagement dans l'Église militante. Eh bien, notre Seigneur, nous l'avons vu dans son incarnation, est totalement assumé par Dieu. Il est le prêtre de Dieu et il assume la mission de sauver les hommes. Donc ça se reproduit en nous par ses sacrements. Par ces sacrements, nous lui devenons semblables, nous engageons dans la mission de l'Église militante de nous sauver et de sauver aussi le monde. Et nous aussi, rappelez-vous des baptêmes auxquels vous avez assisté, quand nous avons été baptisés, on nous a demandé « Voulez-vous être baptisés ?» C'est juste avant l'onction, juste avant l'ablution, pardon. « Voulez-vous être baptisés ?» Et on a répondu « Oui ». Nos parrains ont répondu oui. Comme notre Seigneur a dit, me voici, je viens pour faire votre volonté. Donc nous sommes consacrés à Dieu par le baptême. Et que notre consécration, comme le fiat de la Sainte Vierge Marie, ne soit pas seulement un assentiment, mais un enthousiasme. Enthousiasme de faire partie du corps mystique de notre Seigneur Jésus-Christ, d'être engagé dans l'Église militante, pour que le royaume de Dieu s'étende dans le monde. Enthousiasme pour vivre en dépendance filiale de Dieu par la Sainte Vierge pour accomplir les œuvres auxquelles la Providence nous invite. Le combat spirituel contre le démon, les devoirs d'État et puis toutes les œuvres de notre vie. Deuxièmement, la pauvreté. Jésus, bon, pendant ces 9 mois, ça ne change pas grand-chose pour lui. Mais après, en tout cas, il a choisi toute sa vie la pauvreté. Pour plusieurs raisons, notamment pour nous faire comprendre qu'étant Dieu, étant parfait, étant le plus riche, il n'a besoin de rien de matériel. Et pour nous faire comprendre la valeur essentielle des biens éternels, des biens spirituels. Donc ce choix de notre Seigneur, ce choix d'une mère pauvre et inconnue, d'une vie d'artisan, ensuite sans abondance, nous rappelle le danger du matérialisme de notre époque spécialement. Danger beaucoup moins grand autrefois, jusqu'au je ne sais pas, jusqu'à la Renaissance, la vie était encore très simple. Mais aujourd'hui, les biens matériels sont une menace. Parce qu'ils occupent l'homme excessivement, ils occupent notre activité, notre temps, leur entretien, pensez aux biens techniques, l'entretien des véhicules, des machines, des ordinateurs, je ne sais. Et ils matérialisent. Les machines vont trop vite pour la nature humaine. Elles vont tellement vite que nous ne pouvons pas en même temps garder, nous pouvons très difficilement en même temps utiliser ces machines et rester en paix et rester surtout en contact avec Dieu. Il y a un danger de ce côté-là, surtout pour ces biens matériels techniques de notre époque. Deuxième danger de ces biens matériels, c'est qu'ils fascinent. Il fascine le cœur de l'homme et il coupe du réel. Bon, c'est très contemporain aujourd'hui, hein. Vous voyez donc combien de personnes vivent à côté du réel à cause de ces machines. Et puis, d'une façon plus universelle, ça vaut pour tous les temps, les biens matériels conduisent à l'illusion de l'autosuffisance de l'homme. Un exemple, aujourd'hui, où dans nos pays, il n'y a plus jamais de famine, eh bien, nous avons l'illusion que nous sommes autosuffisants. Nous avons l'illusion que l'homme, par son activité naturelle, se suffit à se pourvoir en nourriture. Alors que c'est toujours un don de Dieu, même si l'homme y travaille. Illusion de l'autosuffisance, de la maîtrise de la vie, et même maintenant la maîtrise de la naissance des enfants, pratiquement. Ça devient un obstacle à la dépendance nécessaire vis-à-vis de Dieu. D'où le danger de ce matérialisme. Il nous est donc nécessaire de redevenir pauvres si nous ne sommes pas restés en esprit. Devenir pauvres en esprit, comme Jésus nous y invite pendant ce temps de l'Avent, comme la Sainte Famille nous y invite. Nous avons parlé de Saint Joseph hier, c'est la même chose. Cette pauvreté intérieure suppose déjà une certaine sobriété extérieure. De même que nous disions que la pureté intérieure suppose une pureté aussi corporelle. Et cette sobriété extérieure est un combat aujourd'hui. Aujourd'hui, il est difficile, étant donné le prix de beaucoup de produits, de rester avec peu d'objets chez soi. Une surabondance, alors on se rend compte quand on déménage, ou bien on se rend compte lorsque quelqu'un meurt et qu'il faut vider son appartement ou vider sa maison, on se rend compte de l'extrême surabondance de biens inutiles ou de biens qui sont vraiment superflus. Donc combat pour la sobriété, combat pour choisir ce qui est plutôt simple que plutôt ce qui est sophistiqué, plutôt simple dans les vêtements, dans les machines, dans la décoration, pour que le climat de la maison reste sobre, que l'atmosphère de la maison soit certes belle, agréable, mais non pas riche, parce que la richesse captive le cœur de l'homme et l'empêche de s'élever aux biens éternels. Autrefois, donc je disais avant la Renaissance, même les palais étaient sobres. Quand vous visitez un château du Moyen-Âge, eh bien, c'est beau, oui, il y a des grandes pièces, mais d'abord, il devait bien avoir froid en hiver, et puis il n'y a pas de confort. Les sièges ne sont pas confortables, c'est beau, mais c'est pas confortable, il y a une sobriété. Donc il y avait l'esprit chrétien dans toute la société encore à cette époque-là. Aujourd'hui, il faut faire un effort positif dans ce sens-là, parce que ça ne va plus de soi. Donc dans combat pour la sobriété, choisir ce qui est simple, accepter de manquer aussi lorsque ça arrive, de manquer de ce dont on aurait besoin. Eh bien tant mieux, se dire tant mieux, ça me manque, c'est une bonne occasion de pratiquer la pauvreté. Et donc tout ça au service de la pauvreté intérieure, au service de l'essentiel, la quête de Dieu, toujours la même chose. Saint Jean de la Croix écrit: seul le pauvre est libre pour l'amour. Seul le pauvre est libre pour l'amour. Il ne s'agit pas, ce n'est pas une question de ce n'est pas avant tout une question de richesse pécuniaire, On peut être très riche et avoir l'esprit de pauvreté. Ou au contraire, on peut être pauvre et avoir l'esprit de riche, comme ça arrive souvent maintenant, même dans ces pays pauvres où ils n'ont presque rien, ils ont des instruments techniques et ils n'ont pas l'esprit de pauvreté. Quand ils arrivent dans nos pays, ils courent au bien matériel beaucoup plus que nous-mêmes qui avons été élevés dans ce milieu. Ils n'ont pas l'esprit de pauvreté. Donc ce n'est vraiment pas une question de richesse pécuniaire, c'est une question d'esprit. Seul le pauvre est libre pour l'amour. Et saint Thomas d'Aquin explique pourquoi. L'aliment de la charité, c'est la diminution de la convoitise des biens sensibles. La perfection de la charité, c'est l'absence de convoitise. Or, du fait qu'on possède, dit-il, des biens terrestres, le cœur est attiré à les aimer. D'où ce mot encore de saint Augustin, les biens de la terre sont aimés davantage quand on les possède que quand on les désire. Et saint Jean Chrysostome dit aussi, l'afflux des richesses active la flamme et la convoitise en devient plus vive. C'est pourquoi pour acquérir, continue saint Thomas, c'est pourquoi pour acquérir la perfection de la charité, le fondement premier est la pauvreté volontaire. Vous voyez ? Donc il ne s'agit pas nécessairement, comme le font les religieux, de donner tous leurs biens, de renoncer à toute propriété, mais la pauvreté volontaire, c'est de vouloir vivre sobrement et indépendamment le plus possible des biens matériels pour que le cœur reste libre pour aimer Dieu et le prochain. La pauvreté intérieure, une pauvreté plus profonde, consiste à nous détacher de nos œuvres, de nos activités, de notre profession, si elle nous intéresse, non pas en les négligeant, mais en évitant d'en tirer une jouissance humaine. Et notre Seigneur l'exprime dans l'Évangile en disant « Que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite ». Et puis une pauvreté de cœur encore plus intime, c'est peut-être la plus élevée, c'est d'accepter nos misères, nos insuffisances, nos échecs avec générosité et bon cœur, avec humour également, sans jamais se décourager. Ça, c'est la plus profonde des pauvretés, savoir accepter ses misères. Comme le dit un auteur franciscain, la sainteté n'est pas un accomplissement de soi, la sainteté n'est pas une plénitude qu'on se donne. Elle est d'abord un vide que l'on se découvre et que l'on accepte et que Dieu vient remplir dans la mesure où l'on s'ouvre à sa plénitude. Lorsqu'on accepte sa limite, sa misère, ses échecs, alors on s'appuie sur Dieu et il n'est pas difficile d'aimer Dieu. Tandis que quand nous nous appuyons sur nous-mêmes, nous nous aimons facilement plus que Dieu lui-même. Et puis dernière leçon, toujours à la suite de notre Seigneur, pendant ces 9 mois, c'est la vie mariale. Il a voulu ça, venir comme un enfant, vivre avec elle pendant 30 ans, nous explique Saint-Louis-Marie, c'est pour nous enseigner que c'est la voie que nous devons suivre pour aller à lui, de vivre en elle. Rappelez-vous ce que dit Saint-Louis-Marie. Marie est le grand et l'unique moule de Dieu, propre à faire des images vivantes de Dieu à peu de frais et en peu de temps. Et qu'une âme qui a trouvé ce moule et qui s'y perd est bientôt changée en Jésus-Christ que ce moule représente au naturel. Dieu le Fils a communiqué à sa mère ce qu'il a acquis par sa vie et sa mort, ses mérites infinis et ses vertus admirables. Il l'a faite trésorière de tout ce que son Père lui a donné en héritage. Et par elle, il applique ses mérites à ses membres, il communique ses vertus, distribue ses grâces. Donc vivons, apprenons à vivre en elle, à son image. Et ça, il peut nous l'enseigner si nous le désirons, si nous le demandons, pendant ce temps de l'Avent. Représentons-nous notre Seigneur dans ce sein de Marie, priant son Père, s'offrant à son Père, se délectant dans l'amour de sa mère, dans l'attention de sa mère, se donnant à elle, sanctifiant Saint Jean-Baptiste au moment de la visitation, et demandons-lui à vivre de même, à agir par elle, en elle. Alors par elle, je vous rappelle ce qu'explique Saint Louis-Marie, agir par Marie. Fait, dit-il, obéir en toutes choses à la Sainte Vierge, en se conduisant par son esprit, c'est-à-dire lorsque nous avons quelque chose à faire, et le plus souvent possible, la consulter pour lui demander comment faire ou que faire. La consulter, se tourner vers elle. Un auteur carme écrit, Michel de Saint-Augustin au XVIIe siècle, il faut que nous mettions tous nos soins à garder et à réchauffer en nous, au cours de l'action comme au sein de la souffrance, dans tout acte ou omission, dans les peines, les douleurs, les afflictions, les angoisses, une filiale et tendre et innocente conversion de l'esprit, une aspiration et respiration amoureuse vers Marie, comme vers une mère aimable au-dessus de tout ce qui est aimable. De telle manière qu'il s'établisse un flux et un reflux suave d'amour envers elle et d'elle vers Dieu. Alors c'est ce que faisait notre Seigneur à Nazareth pendant les 30 ans. C'était sa mère, il agissait par elle, il la consultait, il lui demandait, etc. Ensuite, avec Marie, c'est, dit Saint Louis-Marie, il faut dans ses actions regarder Marie comme un modèle accompli de toute vertu et perfection que le Saint-Esprit a formé dans une pure créature pour l'imiter selon notre petite portée. Il faut donc qu'en chaque action, nous regardions comme Marie la fait ou la ferait si elle était en notre place. Et puis enfin, en Marie, c'est, dit-il, s'accoutumer peu à peu à se recueillir au-dedans de soi pour y former une petite idée ou image spirituelle de la Vierge Marie. Si l'âme prise sera en Marie, si elle reçoit Jésus par la Sainte Communion, elle le mettra en Marie pour s'y complaire. Si elle agit, ce sera en Marie. Partout et en tout, elle produira des actes de renoncement à elle-même. Alors c'est une grâce, dit Saint Louis-Marie, à obtenir. Nous obtenons en demandant cette grâce à Jésus et à Saint Joseph. Ce n'est pas un sentimentalisme, ce n'est pas une façon d'agir qui satisfasse la sensibilité, c'est une dévotion de volonté réfléchie et qui demande une certaine fidélité. Alors nous demanderons cette grâce, ces grâces, pendant ce temps de l'Avent, de vivre notre consécration à Dieu baptismale d'une façon plus attentive, par la foi, par un retour de foi plus fréquent, à cette consécration à Dieu, à cette union de nous tous aussi dans le corps mystique, à nous efforcer à la pauvreté intérieure et donc aussi à la sobriété extérieure pour ouvrir notre cœur à Dieu, et puis, comme notre Seigneur, à son image, à vivre dans ce moule de Dieu qu'est la Sainte Vierge Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.